à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je suis Christophe Pellet, lauréat du prix Jeune Théâtre Béatrice Dussane de l'Académie française. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un auteur que j'aime beaucoup, qui m'a nourri, qui m'a inspiré. Cet auteur, c'est Tennessee Williams, un très grand auteur de théâtre, un maître pour moi. Et j'étais adolescent quand j'ai découvert l'univers de Tennessee Williams. Et ce fut comme si cet homme, cet auteur, m'avait parlé au plus près, comme s'il m'avait parlé directement. Chaque pays a son sud et l'on y reste toujours attaché lorsque nos origines s'y ancrent. Tennessee Williams vient du sud des États-Unis, un sud flamboyant et meurtri, sublimé et dégradé, un sud nostalgique vers lequel il reviendra toujours. Eh bien, le Marseille de mon enfance n'est pas tellement éloigné du Saint-Louis où s'est déroulée celle de Tennessee Williams. Population mixte, fort contraste entre riches et pauvres, engendrant la formation de ghettos, ou la ségrégation raciale dans le Mississippi des années 20. Des traces ressenties par le jeune Tom, qui plus tard changera son prénom en celui d'un autre état sudiste, le Tennessee. Du côté maternel, sa famille descendait d'une aristocratie sudiste, qui ne se remit jamais de la guerre de sécession et de la défaite du Sud contre le Nord. Et de mon côté, à Marseille, j'ai été élevé en partie aux côtés de familles juives pieds noirs, là encore, sentiment de nostalgie et de perte. C'est donc dans le sud de la France que j'ai découvert le sud de Tennessee Williams par la diffusion à la télévision de films adaptés de ses pièces. J'étais seul dans ma chambre, devant un minuscule écran de télévision. Cette intimité, ce regard solitaire, intensifiaient le jeu des acteurs, la restitution de pulsions par leurs incarnations tendues et fiévreuses, et elles me rapprochaient de leur visage en un effet de loupe, cet effet de gros plan si difficile à obtenir sur une scène de théâtre. Malgré la mauvaise qualité de l'image et le son défectueux, mon émotion d'alors était très vive, et elle demeure encore aujourd'hui, renouvelée et intacte à chaque nouvelle vision de ces films. Et je reste à jamais l'adolescent solitaire qui les découvrit dans sa chambre close au cœur de la nuit. Eh bien, c'est par ces visages en noir et blanc que j'ai connu Tennessee Williams. Derrière leurs traits, une façade le plus souvent lisse, affleurée comme à leur insu et pour leur souffler leur réplique, un spectre. Ce spectre, je l'ai compris plus tard, c'était celui de l'auteur, c'était celui de Tennessee Williams, dont je ne savais encore rien du vécu, mais c'était comme si je portais déjà en moi son regard et toute sa peine. Vivian Leigh, Katharine Hepburn, Paul Newman, Elizabeth Taylor, Montgomery Clift, visages multiples et pourtant semblables, au-delà du féminin et du masculin, visages hors d'âge, fascinants, magnifiés, avant d'être dégradés une fois traversé par les mots de Tennessee Williams. Des mots comme des flèches sur le corps d'un Saint-Sébastien, des mots vecteurs d'un cérémonial vaudou ou archaïque, présence du Sud là encore. Et des visages, pour l'enfant que j'étais, ces visages perdaient leur beauté manufacturée et inaccessible pour me devenir proche. Des visages d'acteurs foudroyés par un processus d'élévation et de chute, d'exaltation et de découragement, de sanctification et de dégradation. Eh bien, ces personnages ne sont qu'un seul et même individu, et ils ne révèlent qu'une seule et même figure inquiète, celle de Tennessee Williams, leur créateur. Un seul et même visage gagné à la fois par la folie et la lucidité, l'aveuglement et l'éblouissement. Et d'ailleurs, Tennessee Williams, toute sa vie, n'eut qu'une seule crainte, celle de perdre la vue. Et il dut subir tout au long de sa vie de nombreuses opérations de la cataracte. Pourtant, ces merveilleux visages de cinéma qui me fascinèrent adolescent n'auront pas suffi à occulter chez Tennessee Williams un sentiment d'échec et d'abandon. Ces visages beaux et trompeurs ont participé un temps de sa gloire avant de devenir des fantômes vénéneux, surgit d'un passé glorieux mais perdu. Ils ont en quelque sorte emporté une partie de la raison de leur créateur et sont devenus des spectres, tout comme l'écrivain au crépuscule de sa vie, un spectre lui aussi. Eux et lui, personnages et écrivains, sont devenus un seul et même visage. Et ce visage, c'est aussi celui de la sœur aînée de Tennessee, Rose, double négatif et tragique de l'auteur, sœur adorée, déclarée schizophrène, internée et lobotomisée. Tennessee Williams ne se remit jamais de ce destin brisé. En fait, les textes de Tennessee Williams sont traversés par un mythe inversé, celui créé par Oscar Wilde dans son roman Le portrait de Dorian Gray. Le portrait peint de Dorian Gray vieillit et se dégrade, révèle les vices du modèle, un jeune homme de chair et de sang, dont le visage, parallèlement à la dégradation du portrait, reste pur et intact. Chez Tennessee Williams, ce sont les personnages qui sont des êtres de chair et de sang. Ils se dégradent sous nos yeux le temps de la représentation qu'ils nous donnent à l'écran ou sur scène. Sans doute un ressenti de la propre dégradation de l'auteur qui les a mis au monde et qui reste leur seul et unique modèle. Mais ces personnages abîmés gardent toujours en eux l'image d'un portrait inaltéré d'eux-mêmes. Ainsi Blanche Dubois, l'héroïne vieillissante du tramway nommé Désir, continue-t-elle à jouer le rôle d'une jeune fille de l'aristocratie du Sud ? Un portrait d'elle-même sublimant une beauté et une joie désormais perdues. Mais ce portrait est un portrait trompeur, il n'est pas la réalité. C'est un leurre qui l'aveugle dans sa recherche éperdue de pureté, une quête presque sacrée. La réalité des personnages de Tennessee Williams, c'est la propre vie de Tennessee Williams. Une vie qui ne fut qu'une longue fuite éperdue, hantée par la dégradation. Et ces visages qui m'ont frappé enfant sont devenus pour certains des mythes. Ils marquent à jamais une œuvre autant liée au théâtre qu'au cinéma. L'univers de l'auteur et ses démons ont été le corps même d'Hollywood. Présence du mythe de Dorian Gray inversé là encore. C'est le modèle, Tennessee Williams, qui se dégrade quand ses reflets multiples et trompeurs, les acteurs de cinéma, traversent le temps inaltérés. Cependant, après avoir été désincarné dans la lumière du cinéma, le théâtre reste encore, toujours et à jamais, le lieu de leur résurrection. Les personnages de Tennessee Williams sont venus à ma rencontre. Au-delà du temps, fantômes revenus d'entre les morts, le temps d'une représentation pour me hanter, moi, le vivant spectateur. Alors, la scène de théâtre s'est imposée comme un lieu intermédiaire pour moi, un entre-deux agissant sur ma conscience. Et j'ai eu envie, à mon tour, d'essayer de faire un peu la même chose, mais en tout cas d'écrire du théâtre, d'aller au-devant de ces visages, et surtout peut-être, et c'est pour ça que j'écris du théâtre, au-devant des acteurs. Parce que si j'écris du théâtre et non pas de la poésie ou des romans, c'est parce que justement, j'ai envie de ces visages, de ces voix, de ces corps des acteurs. C'est pour eux que j'écris. Et au cinéma, les films ne serviraient donc qu'à conserver la trace d'un passage, du passage de cet acteur, de ce visage. Les films n'auraient d'autre fonction que la reproduction mécanique et renouvelée d'icônes immatérielles se jouant du temps. Et inversement, lorsque certaines stars s'exposent pour la première fois sur une scène de théâtre, ne sont-elles pas de véritables apparitions presque divines pour les spectateurs cinéphiles dont je suis ? Des incarnations sur scène après avoir été des légendes immatérielles à l'écran ? Étrange aller-retour entre le théâtre et le cinéma. Théâtre et cinéma, corps et ombre de Tennessee Williams. L'écran de cinéma en serait-il l'ombre ? Et la scène en serait-elle le corps ? En tout cas, à un moment donné de la vie de Tennessee Williams, l'ombre s'est dissociée du corps. Quelque chose a dysfonctionné. Tennessee Williams est devenu un corps-ombre dépendant de l'alcool et des neuroleptiques. Seuls les voyages, comme autant de fuites perpétuelles, lui apporteront un apaisement sans parvenir à effacer la perte de repères, la dépression, le lent suicide inconscient et la fin de vie tragique. Car à la fin de sa vie, Tennessee Williams a affronté des spectres. D'abord son amant de toute une vie, Frank Merlot, qu'il appelait son petit cheval, mort très jeune d'un cancer du poumon. Mais surtout Rose, d'une certaine manière morte elle aussi, même si toujours en vie, lobotomisée, enfermée dans un asile, éternelle petite fille au cerveau glacé par la lobotomie. Après la mort de Frank, Tennessee Williams se rapprochera de plus en plus de sa sœur Rose, choisissant pour elle les meilleures cliniques, l'invitant à ses côtés, aux premières, dans les grands restaurants à New York. Les liens qu'il attache à la fois à l'écriture et à Rose l'empêcheront de sombrer tout à fait dans la folie. Présence conjointe de l'écriture et de Rose, et une consolation aussi, le paradis originel de l'enfance, retrouvée aux côtés de Rose. Car après sa lobotomie, Rose restera à jamais une enfant. Et Tennessee, en écrivant, n'abandonnera jamais sa part d'enfance. Au moment où Rose prend une place prépondérante dans la vie quotidienne de l'écrivain, son écriture devient de plus en plus auto-fictionnelle et expérimentale. Un an avant la mort de Frank Merlot, Tennessee Williams avait rompu avec lui après avoir rencontré un autre jeune homme, un poète de 26 ans, devenu son amant. Frank, abandonné, malade et sentant sa fin proche, avait réagi violemment face à cette liaison. Dès lors, Tennessee Williams ressent une double culpabilité. Il n'a pu éviter l'internement de sa sœur Rose et n'a pas été assez présent au moment de l'agonie de Frank. Rose et Frank, les deux êtres qui auront le plus compté dans sa vie. Et j'en reviens toujours au visage de ses idoles, ces icônes immatérielles liées à mon adolescence, à mes troubles et à mes angoisses. La lecture de l'œuvre à l'âge adulte ne les a pas effacées de ma mémoire. J'abandonnais l'adolescence, la vision exacerbée de ces visages, pour devenir adulte, par la lecture plus apaisée des mots. J'ai pris conscience alors d'une chose essentielle, sans laquelle je n'aurais pu continuer mon chemin d'écriture, avec ses doutes, ses peines et ses joies. C'est cette alchimie mystérieuse entre le corps de l'écrivain et celui de l'écriture. Une osmose entre le corps de celui qui écrit et les mots. Osmose sans laquelle ne peut naître aucune œuvre. Parallèlement à l'écriture de ses textes, Tennessee Williams faisait des interviews. Et que ce soit ses textes a priori fictionnels ou ses propos lors de ses interviews a priori vécus, il n'y avait aucune différence. C'était la même voix. Ainsi, écrire, ce n'était pas seulement pour lui raconter des histoires, mais c'était surtout cette fusion troublante entre la vie de celui qui écrit, sa propre vie, et les mots, sa propre voix unique. Et Tennessee Williams m'a fait cette leçon, m'a donné cette leçon de vie et d'écriture, qu'on ne pouvait finalement écrire que dans la nécessité d'écrire sur soi avant tout et ne pas raconter des histoires. Je découvrais qu'écrire comme je le faisais sur une reine égyptienne n'était plus suffisant, qu'il me faudrait aller plus loin. La force de mon écriture dépendait de cette prise de risque. Écrire sur soi, ne plus raconter d'histoires, ne plus me raconter des histoires. Ainsi, je suis passé de l'autre côté, grâce à Tennessee Williams, du côté de la fiction. J'ai abandonné le réel, à moins que je n'ai tout simplement fait l'inverse, abandonné la fiction, notre monde et notre réalité absurde, pour enfin atteindre la vérité par la réalité nue.